Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur, sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que j'ouvre ce premier direct de l'année de Transistor. Notre web radio fête aujourd'hui ses 7 ans d'existence. Certains diront que c'est l'âge de raison. Nous allons essayer de vérifier cet adage, en partie seulement. 3 heures de direct, de 14h à 17h, pendant lesquelles vous retrouverez vos programmes favoris. Au menu d'aujourd'hui, de l'actualité pendant une heure, de la littérature à voix haute, de l'histoire, du cinéma, un jeu radiophonique, de la biologie et de la fiction. Bref, il y en aura pour tout le monde. Mais tout d'abord, c'est en ce moment la grande actualité de Transistor. Sans plus attendre, voici le journal de la rédaction, présenté par Maëlys. Bonjour Maëlys.
Bonjour Mathias. Alors, au sommaire, en ce jeudi 8 décembre 2016, actualité internationale dans un premier temps, où nous aborderons les nouvelles révélations d'Edward Snowden à propos des pratiques d'écoute massive de la NSA, la guerre en Syrie et la reprise sanglante d'Alep par les forces gouvernementales, et enfin la nomination d'un climato-sceptique par Donald Trump à la tête de l'Agence américaine pour l'environnement. Retour sur les titres nationaux dans un second temps avec le vote du Sénat pour la pénalisation des sites anti-avortement accusés de désinformation et de délit d'entrave à l'IVG. Course à la présidentielle, on se bouscule au portillon de la primaire de gauche avec des candidats de plus en plus nombreux, ce à quoi s'ajoute la rumeur d'une candidature surprise de Vincent Peillon. Environnement enfin, avec la France plongée dans un brouillard de particules fines, avec le pire pic de pollution depuis ces 10 dernières années.
Alors commençons avec des révélations sulfureuses, Maëlys.
Mais oui Mathias, alors à l'international aujourd'hui, de nouvelles révélations issues des archives d'Edward Snowden et diffusées hier par un ensemble de médias internationaux, dont le journal Le Monde en France, concernant les activités officieuses de la NSA, l'agence de sécurité américaine et l'agence de renseignement britannique, la GCHQ. Alors qu'Edward Snowden avait déjà dénoncé la construction méthodique d'un système de surveillance à partir de la collecte massive de données de communication, les accusations se font plus précises plus de 3 ans après l'affaire. On apprend ce mercredi que la France a été ciblée par un programme d'interception des communications mobiles à bord des avions commerciaux par la NSA et la GCHQ, notamment sur les vols de la compagnie Air France, compagnie la plus susceptible, d'après eux, d'être visée par un nouveau 11 septembre. Seconde révélation, bien qu'officiellement les services secrets américains, britanniques et israéliens soient des 3 alliés de longue date, les Britanniques auraient espionné la diplomatie israélienne, mais aussi bien à Jérusalem qu'à l'étranger. Ils visaient aussi des sociétés privées du secteur de la défense, des organismes d'État ou encore des centres universitaires connus pour leur très haut niveau scientifique, ratissant beaucoup plus large que les écoutes de simples dirigeants politiques qui avaient déjà été mises au jour. De même, les agences américaines et britanniques auraient également intensément écouté leurs très proches alliés du renseignement jordanien, nation alliée précieuse à l'heure de la lutte contre Daesh. Des révélations qui risquent de mettre de l'eau dans le gaz entre ces puissances alliées en termes de renseignement, ou pas si l'on s'en fie aux réactions pour l'instant prudentes des différentes parties impliquées, et à ce vieil adage de l'espionnage, ne se fier à personne.
Et au Moyen-Orient, où en est-on en Syrie ?
Moyen-Orient et guerre de Syrie maintenant, Mathias, où Alep est toujours à feu et à sang alors que l'armée syrienne dirigée par Bachar el-Assad a annoncé hier avoir repris la ville, appuyée entre autres par l'aviation russe, après des jours de bombardements intensifs qui ont tué des centaines de civils. Les groupes armés rebelles en lutte contre le régime et présents dans la ville depuis 2012 ont réclamé une trêve immédiate et en ont appelé aux grandes puissances et au droit international humanitaire. Au même moment, la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada et l'Italie et le Royaume-Uni ont demandé hier un cessez-le-feu immédiat à Alep, enjoignant l'Iran et la Russie à faire pression sur le régime syrien. Néanmoins, les espoirs d'apaisement sont maigres, puisque lundi, la Russie et la Chine ont mis leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant une trêve à Alep et l'arrêt des combats en Syrie. Et qu'aujourd'hui, dans une interview publiée dans le journal syrien Al-Watan, Bachar el-Assad exclut tout cessez-le-feu à Alep afin de parachever sa victoire qui représente, je cite, « une étape énorme vers la fin du conflit ». L'arrêt des combats n'est donc pas d'actualité et le sang n'a pas fini de couler en Syrie.
Un sombre horizon. Pas de nouvelles plus réjouissantes aux États-Unis ?
Direction les États-Unis maintenant, où le climato-sceptique Scott Pruitt a été nommé par Donald Trump à la tête de l'Agence américaine pour l'environnement. Donc la rencontre lundi avec Al Gore, ex-vice-président de Bill Clinton et militant de l'environnement de longue date, avait pourtant ouvert de nouveaux horizons qui se sont bien vite refermés avec la nomination hier, mercredi, 7 décembre, de Scott Pruitt. Donc Scott Pruitt a en effet été l'un des principaux leaders de la bataille juridique menée ces dernières années par les républicains dans le but de stopper les réformes engagées par Barack Obama pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc à 48 ans, c'est un défenseur acharné des compagnies pétrolières contre toute régulation administrative de l'extraction énergétique. Cette décision demeure cependant une demi-surprise puisqu'en fait Donald Trump n'est jamais revenu sur l'engagement pris pendant sa campagne électorale d'annuler l'accord de Paris sur le climat, signé pourtant par les États-Unis dans le cadre de la COP21. Néanmoins, la nomination de Scott Pruitt n'est pas de bon augure pour l'engagement écologiste des États-Unis et confirme les craintes des partisans d'une réglementation mondiale du réchauffement climatique.
Et sinon en France, Maëlys ?
Alors, retour en France, Mathias, maintenant, dans une deuxième partie du journal, et notamment dans le domaine de la santé. Donc, les sénateurs ont adopté hier soir la proposition de loi socialiste visant à pénaliser les sites anti-IVG pour désinformation, et ce malgré une très franche opposition de droite qui voit une limitation inacceptable de la liberté d'expression. Néanmoins, le texte a été examiné et modifié par les sénateurs en procédure accélérée, dans la perspective d'un vote définitif du Parlement d'ici fin février, et devra repartir à l'Assemblée. Cette mesure devrait entrer dans le cadre d'un élargissement légal du délit d'entrave à l'IVG, une loi créée en 1993 qui sanctionne le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une IVG en perturbant l'accès aux établissements ou en exerçant des menaces sur le personnel ou les femmes concernées. Donc la peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende à la clé. Donc la proposition de loi des députés vise à ajouter que l'entrave peut se faire par, je cite, « tout moyen, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne des allégations, indications de nature à induire intentionnellement une erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une IVG ». Donc la bataille n'est cependant pas encore gagnée et on a épisode à suivre donc avec le prochain retour du texte à l'Assemblée.
Course à la présidentielle maintenant. Un petit point sur la primaire de gauche.
Donc politique maintenant, Mathias, à gauche toute, maintenant que la droite a terminé sa primaire, on se bouscule au portillon à gauche où les candidats à l'investiture se multiplient, malgré le retrait de Hollande mercredi dernier. Donc après Valls lundi dernier qui se lançait dans la course, ce serait au tour de Vincent Peillon de rentrer en lice, selon les proches de l'ancien ministre de l'Éducation qui se sont confiés au Point et au Canard enchaîné. Donc une candidature qui crée autant de surprises que de remous, Peillon étant un soutien d'Hollande de longue date, une telle candidature risquerait d'affaiblir le camp Valls, qui se pose en héritier de la ligne du gouvernement, en fait. Donc, d'après le Canard enchaîné, Peillon bénéficierait ainsi du soutien informel de Martine Aubry et de Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui ne se reconnaîtrait dans aucun candidat actuel. Donc, rappelons que 7 candidats sont actuellement déclarés, alors que les candidatures à la primaire de gauche se clôturent le 15 décembre prochain. Donc, on a Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann et Gérard Filoche à la gauche du PS, Pierre-Laure Outurou de Nouvelle Donne, Sidi Amada Amidou du PRG, Jean-Luc Benamias de l'Union des démocrates et les écologistes, et François de Rugy du Parti écologiste. La compétition est donc loin d'être terminée.
Oui, et ça doit être un peu le brouillard dans les programmes. Et en parlant de brouillard d'ailleurs.
Donc la France est dans un brouillard de particules fines actuellement. Donc la France connaît le pire pic de pollution hivernale depuis 10 ans, à la fois en termes de durée et d'intensité. Et ce sont les grandes villes qui sont principalement touchées. Donc la faute à des conditions anticycloniques installées sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Circulation alternée, en plus de transports en commun gratuit en Île-de-France et pour la première fois dans la région Rhône-Alpes. En effet, à Lyon et à Villeurbanne, les autorités s'attendent à dépasser le seuil critique de 80 microgrammes par mètre cube dans les prochains jours et le préfet de région, Michel Delpuech, a décidé pour la première fois d'appliquer la circulation alternée sur la capitale des Gaules. Donc la mesure entre en action demain vendredi 9 décembre et ne va pas s'en faire grincer des dents. D'une part, à Lyon, les transports en commun régis par la TCL, transports en commun lyonnais, sont affectés depuis plus de 10 jours par une grève et un bras de fer social qui touchent essentiellement le réseau aux heures de pointe. Et d'autre part, et surtout, la ville s'apprête à célébrer la fête des Lumières qui commence aujourd'hui et qui dure tout ce week-end. Événement qui attire habituellement plusieurs millions d'âmes et qui représente une manne habituellement de plusieurs, une manne économique essentielle pour la ville. Donc on comprend dans ce contexte que les discussions autour de la gratuité des transports en commun et le manque à gagner associé soient âpres. Le préfet Michel Delpuech s'y montrant favorable quand le président de la métropole de Lyon, Gérard Collomb, s'y oppose. Bref, profitez-en bien de la fête des Lumières ou partez à la campagne, cherchez l'air pur. En vous souhaitant une bonne après-midi sur Transistor et rendez-vous dans une heure pour le Flash Info.
Merci beaucoup Maëlys pour toutes ces informations. Après les faits, l'humeur, il est maintenant temps de prendre un café avec nos 4 éditorialistes.
Alors, avant les au revoir. On a juste le temps de prendre un café et l'addition.
Et nous commençons tout d'abord avec l'édito international présenté par Clément. Bonjour Clément.
Bonjour Mathias.
Et pour ton édito, Clément, tu as décidé de nous emmener en Orient.
Exactement, Mathias. Assez de Matteo Renzi, assez d'Angela Merkel qui affichent leur tête dans les journaux, même si je n'ai rien contre les Allemands ou contre les Italiens. Aujourd'hui, je voudrais parler du Yémen, un pays qui, dans l'indifférence générale, est déchiré par une guerre civile aux conséquences dramatiques. Alors, petit test avant de commencer pour vous autour de la table. C'est où le Yémen ? Hein, je sais pas, Robin ?
Au Moyen-Orient.
Ouais, on affine un peu. Nicolas ?
C'est dans le truc carré, là, qui est pas loin de l'Arabie Saoudite.
Ouais, bon, le truc carré. Très bien. Sachez donc que le Yémen, petit plaisantin, c'est un pays du Moyen-Orient qui couvre le sud de la péninsule arabique.
Voilà, c'est le nom que je cherche.
Et c'est une position stratégique, puisque ce littoral longe le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden. En gros, à l'ouest, vous avez le canal de Suez et à l'est, la route des Indes. C'est un pays de 25 millions d'habitants, très pauvre, et dont l'économie est très dépendante de réserves d'hydrocarbures qui sont par ailleurs beaucoup plus faibles que ses voisins de la péninsule arabique.
Et c'est un pays marqué par une guerre civile.
Oui, alors pour comprendre ça, il faut avoir en tête que le Yémen est un État à la fois jeune et ancien. Lorsque toute cette région accède à l'indépendance dans les années 60, la partie sud du pays devient une république démocratique, marxiste et soviétique. La partie nord, elle, prend le nom de république arabe. Les deux pays se réunifient en 1990, mais le nouvel État est assez instable et en 1994, déjà, le sud tente de faire sécession dans une guerre civile brève, mais qui fait tout de même plusieurs dizaines de milliers de victimes. Et dans le début des années 2000, le pays connaît également le développement d'un certain nombre d'actes terroristes. Et en plus de ça, le Yémen, c'est un pays clivé au niveau religieux. 55% de la population pratique un islam sunnite et 45% un islam chiite. Et en 2004, c'est un groupe chiite, les Houthis, qui lance une insurrection dans le nord-ouest du pays, dans une région frontalière avec l'Arabie Saoudite, vous allez voir ça à son importance. Et malgré un soutien saoudien au gouvernement, le gouvernement n'a jamais vraiment réussi à reprendre position dans l'ensemble de cette région. À cela s'ajoute le printemps arabe en 2011, qui fait aussi des émules au Yémen, puisque je vous l'ai dit, c'est un pays très pauvre, et la population manifeste à Sanaa, dans la capitale, contre la corruption et l'autoritarisme du pouvoir en place.
Et en 2014, la situation devient encore plus instable.
Oui, parce que le président du pays, qui a été élu en 2012, n'arrive pas à mettre en pratique les recommandations de paix qui ont été négociées après le printemps arabe en 2011. Le mouvement des Houthis, donc ce mouvement chiite, lance une nouvelle insurrection qui va jusqu'à toucher le palais présidentiel, obligeant le président à fuir le pays, puis à se réfugier à Aden, une marche assez rocambolesque. Et en 2015, l'année dernière, l'Arabie Saoudite entre franchement dans le conflit en frappant les rebelles Houthis par le biais de son aviation. Alors ces conflits sont évidemment très complexes, mais en gros ce qu'il faut en retenir, c'est qu'ils sont en partie confessionnels, les Houthis sont des chiites, le pays est divisé entre chiites et sunnites, et l'Arabie Saoudite, elle, est animée par le wahhabisme, un islam extrêmement rigoriste. Et à ces conflits entre acteurs que l'on pourrait dire étatiques ou infra-étatiques, s'ajoute le chaos provoqué par la présence de groupes terroristes bien connus, Daesh, le prétendu État islamique, mais aussi Al-Qaïda. En fait, la situation n'est pas sans rappeler la Syrie. On a une guerre civile dont des groupes terroristes tentent de profiter, ce qui justifie l'intervention militaire de pays extérieurs.
Et comme en Syrie, cette situation a des conséquences dramatiques.
Oui Mathias, parce que comme en Syrie, la population vit dans la peur de bombardements de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. On ne compte plus le nombre d'hôpitaux détruits ou de frappes ayant pour cible des civils. À défaut de les trouver dans la presse, il y a une liste sur Wikipédia qui est assez parlante. On ne compte plus non plus le nombre d'appels à des cessez-le-feu qui n'aboutissent jamais ou ne sont pas respectés de toute façon. Depuis l'intervention de cette coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite, depuis mars 2015 donc, l'ONU estime à 7000 le nombre de morts et à 35000 le nombre de blessés. Le photographe Mohamed Weiss a consacré un photoreportage à ses victimes et estime que l'enfer vécu par les populations est encore une fois comparable à ce que vit la population syrienne. Mais cela n'a pas empêché Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères britannique, de considérer que les frappes saoudiennes n'avaient pas dépassé la limite et qu'il fallait continuer à vendre des armes à l'allié saoudien. Qu'est-ce que je disais déjà au début ? Ah oui, indifférence générale.
Merci Clément pour ce tour d'horizon qui fait, je dois le dire, froid dans le dos. Passons désormais à l'économie avec Robin. Bonjour Robin.
Bonjour Mathias. Je commence tout de suite avec un chiffre, 360 milliards, c'est le montant en euros des titres qui vont pouvoir être rachetés par la Banque Centrale Européenne avec cette prolongation de la politique de quantitative easing qu'on a apprise ce matin.
There is no alternative.
Quel est vraiment le problème ?
Qu'ils fassent des choix.
Un problème économique, mais aussi un problème moral.
You would rather have the poor poor, provided the rich are less rich.
Le quantitative easing, assouplissement quantitatif pour les intimes, c'est un moyen pour la Banque Centrale Européenne d'insuffler de la monnaie dans l'économie en rachetant des titres financiers ou des dettes publiques. Il a été mis en place en mars 2015 et devait s'arrêter en mars 2017. Il y a très exactement 31 minutes et 56 secondes, on apprenait qu'il serait prolongé jusqu'en décembre 2017 et plus. En quoi ça consiste exactement ? Le mieux, c'est que j'explique d'abord à quoi ça sert la Banque Centrale. Si tu veux, la Banque Centrale, c'est un peu comme la banque au Monopoly. Elle a une réserve théoriquement infinie de billets et elle va choisir combien il y a de billets qui circulent sur le plateau. C'est un rôle important parce que si le nombre de billets augmente trop vite, le temps qu'ils se répartissent bien, il va y avoir des déséquilibres trop grands entre les joueurs. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et si le nombre de billets baisse, ça va poser aussi des problèmes, la déflation. Le mieux, selon la théorie économique, c'est qu'il y ait un peu d'inflation. Parce que le fait de recevoir un peu d'argent, ça va inciter les joueurs à acheter de nouvelles maisons ou à en échanger.
Et c'est quoi le rapport avec le rachat de la dette des États ?
Eh bien, imaginez qu'un joueur soit ruiné, mais il aimerait quand même continuer à jouer. Eh bien, un autre joueur qui va peut-être être gentil et lui prêter de l'argent. Il va lui dire « tu me rembourseras quand tu seras refait, t'inquiète pas ». Bon, très bien. Mais imaginez qu'il n'arrive pas à se refaire. Et en attendant, bah, sur le plateau, ça devient le bordel. Tout le monde perd de l'argent, il n'y a plus assez de billets en jeu, les maisons s'échangent à des prix trop bas, et donc les joueurs ne veulent pas les vendre, la partie devient chiante à mourir parce qu'il n'y se passe plus rien. Vous donnez plus d'argent aux joueurs à chaque fois qu'ils changent de tour, vous essayez d'augmenter l'argent que vous donnez dans les cartes chance aussi, mais ça ne marche pas. Donc il vous vient une idée, vous vous dites « je vais sortir des méthodes habituelles sur la notice du jeu ». Je vais utiliser un instrument qu'on dit non conventionnel. Vous décidez de racheter la dette du premier joueur, c'est-à-dire que vous décidez de rembourser à sa place. En fait, vous rachetez rien, parce que la banque, elle ne peut pas perdre d'argent, elle a autant de billets qu'elle veut, puisqu'elle les prend dans la boîte. Du coup, ça va revenir à poser sur le plateau des billets qui n'étaient pas là avant. Du coup, il y aura plus de billets sur le plateau, vous avez créé de la monnaie. C'est ça le quantitative easing. Donc à partir de mars 2015, Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, a racheté 60 milliards de dettes publiques chaque mois, puis à partir de mars 2016, 80 milliards, et on a appris tout à l'heure que ce serait prolongé jusqu'en décembre 2017, voire plus, mais qu'on réduisait un peu la quantité, on revient à 60 milliards par mois. Donc comme je disais, il s'agit principalement de dettes publiques, de dettes d'État, mais on trouve aussi des titres financiers privés dans ces titres qui sont rachetés. Et donc c'est un instrument assez dangereux parce qu'on ne maîtrise pas très bien la création monétaire quand on s'en sert. Et puis on a tendance à interférer avec les marchés, ce que normalement on doit éviter. Du coup, normalement, on le fait le moins possible.
Mais la BCE devait l'utiliser 2 ans et la prolonge encore 6 mois. Ça fait beaucoup, non ?
Oui, ça fait beaucoup. Mais la BCE a du mal à s'en détacher parce que l'ombre de la déflation rôde encore sur l'Europe. On a besoin d'inflation. Et surtout, la réunion de ce matin tombait dans un contexte un peu spécial. Le référendum italien de dimanche dernier avait créé un climat d'instabilité en Europe, surtout sur les marchés financiers. Et donc si la BCE arrêtait son programme, elle risquait de rajouter de la panique dans ce climat. Et en plus, le prolongement pouvait permettre d'aider un peu l'Italie en rachetant sa dette, qui sinon risquait de quitter la partie de Monopoly. Et si elle faisait ça, la soirée aurait été gâchée. Mais sauf qu'à côté de ça, il y a un autre joueur qui n'est pas très content, Angela. On l'aime bien, Angela, mais c'est pas toujours marrant de jouer avec elle. Elle est assez stricte. Elle suit les règles à la lettre. À chaque fois, elle nous ressort la notice du Monopoly où c'est écrit « La banque ne s'intéresse qu'au nombre de billets sur le plateau, elle est indépendante des joueurs ». Ça, c'est écrit dans les statuts de la Banque Centrale Européenne. C'est un organisme indépendant et notamment des institutions politiques de l'Europe. Et Angela, elle trouve qu'en étant trop au Matteo, ou l'Italie, on ne respecte pas bien les règles. Parce que dans le fond, si l'Italie, elle a perdu toute seule. C'est pas à la banque de l'aider à jouer. Donc elle a peut-être pas tort, la Banque Centrale, ne devrait pas interférer avec les politiques des pays. Mais en même temps, la décision qu'on a appris tout à l'heure était nécessaire. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, mais c'était nécessaire pour se maintenir la tête hors de l'eau en ce moment. Ça apaise un peu la panique. Certes, à long terme, ça exacerbe les tensions, mais ça ne veut pas dire qu'Angela a raison, parce que la BCE va bien devoir finir par choisir un jour ou l'autre, revenir aux règles qu'elle s'est fixées ou commencer à les transformer. Donc voilà, j'ai été un peu rapide et peu précis dans cette chronique, mais je vous en remercie.
Merci Robin pour cette fine analyse que tu viens de nous faire et nous vous invitons à écouter le numéro de Tina, le numéro 5 de Lino et Quentin. Maintenant, je me tourne vers Myriam qui va nous parler d'une île déserte et de compétition télévisuelle, si je ne m'abuse. Bonjour Myriam.
Bonjour. Française, Français.
Le débat d'aujourd'hui portera sur la politique. La politique, comment, pourquoi et quand.
Moi, président de la République,
au revoir.
J'ai envie de vous dire qu'après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il n'y a plus de doute, celui qui remportera les élections présidentielles françaises sera nécessairement un candidat de télé-réalité. À la fin, comme dirait l'autre, il n'en restera qu'un. Par contre, clairement, je pense qu'on n'a pas le même budget que le milliardaire. Donc l'idée, c'est qu'on vous a foutu sur des îles, et comme ça, on ne dira plus qu'on dépense trop pour les présidentielles. On a appelé ça Polenta. Il y a 2 semaines de cela a eu lieu une épreuve cruciale qui mène à la finale. Voici le bilan de l'épreuve d'orientation politique. Les règles étaient simples, 2 îles géantes reliées par un pont au centre, mais de toute façon, tout le monde s'en fout. Le but était d'attraper le maximum d'électeurs. Crise politique, crise économique, sur ces paroles quasi évangéliques, je vous conseillais plutôt de vous diriger vers l'île de droite. De nombreux colliers d'immunité s'y trouvent. Mais attention, l'île est déjà occupée par le clan Bleu Marine. Ils ont déjà fait Polenta plusieurs fois, n'ont pas toujours gagné, mais malgré leur incompétence, ils ont des trucs et astuces à vous délivrer. Mais enfin bon, vous n'en aurez pas tant besoin que ça. Vous avez déjà réussi à vous approprier certaines de leurs stratégies. La carte de l'identité nationale, le joker Union européenne, vous savez y faire. Mais attention, ce sont des candidats chevronnés. Ils préparent déjà des bunkers pour lutter contre l'invasion de zombies barbus. Mais il y en a toujours 2 ou 3 pour aller sur l'île de gauche. Notre cher Jean-Luc, qui s'amuse pourtant à lancer des pics à l'île de droite, notamment à Marine, son ennemi de toujours, se plaint constamment, mais il reste quand même. Il regrette l'ancienne île de gauche et espère qu'elle sera un jour à nouveau au goût du jour. Car, qu'on ne se le cache pas, la production mise sur l'île de droite, qui est beaucoup plus trendy chez nos spectateurs. Dans nos bandes annonces, on ne voit qu'elle. Et puis après tout, nous n'y sommes pour rien dans le développement de l'île de gauche. D'ailleurs, certains, les frondeurs, se sont rapidement repris, ont créé des nouvelles îles de gauche, à gauche de l'île de gauche. Malheureusement pour eux, la production sait déjà qu'ils sont éliminés de la compétition. Pour d'autres, qui s'y sont pris un peu tard, ils ont tenté de se rendre à la nage sur l'île de droite. Paix à l'âme d'Emmanuel. Revenons cependant sur le conseil d'hier. François, vous avez vaincu. Vous êtes la pièce forte de votre clan. Non, pas vous. Manuel a déjà formé des alliances pour vous éliminer au prochain conseil. Donc je disais, François, vous avez réussi à noyer Nicolas qui a perdu pied et briser les vieux os d'Alain Juppé. Vous avez réussi à attraper presque 3 millions de personnes avec votre stratégie, je vous en félicite. Ces personnes qui ont voté pour vous au Conseil n'ont cependant pas tout compris. Certains vont perdre leur travail, alors que d'autres, à travailler 50 heures par semaine, vont y perdre leur vie. Beaucoup vont perdre leur santé, mais c'est un mal pour un bien. Ils vont pouvoir suivre leur modèle suprême, vu qu'ils auront les yeux aussi cernés que leur chef. Il est vrai que la saison de cette année ne sera pas très bonne. Et encore, et comme toujours, les audiences vont baisser. Mais je rappelle que, dans tous les cas, pour les électeurs, la sentence est irrévocable.
Et merci à Myriam pour cette analyse politico-télévisuelle. Une voix différente aujourd'hui pour une rigueur scientifique tout aussi implacable. C'est un physicien aujourd'hui qui nous parle de science. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathias. Implacable, c'est le mot, parce que je suis là pour tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de l'écologie. Alors pour cette chronique à dominante biologie, j'ai été dépêché par Léo, ce qui est le comble pour me faire lire un édito sur le développement durable. Je vais essayer de ne pas répéter les frasques de Marie-Ève lors de ses éditos sportifs dans les Gones et je vais tenter de vous convaincre de mon expertise en la matière.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
They have finally found the Higgs boson. 2 millions de victimes de la grippe depuis le début des épidémies.
A major outbreak of Ebola and death toll is rising in Nepal after a massive 7.8 magnitude earthquake struck the region.
Une trop grande consommation de viande aggrave les risques de développer un cancer.
Yes, science!
On part au Mexique pour des nouvelles moyennement réjouissantes, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Vous connaissez tous la COP, la conférence des partis, dont la 21e édition s'est déroulée en décembre dernier à Paris et dont la 22e édition vient de s'achever à Marrakech, au Maroc. Moins connue est la COB, qui n'est pas la conférence des partis, mais la contraction de la conférence des partis pour la biodiversité, dont la 13e édition vient de s'ouvrir à Cancun, au Mexique. Alors, fait remarquable, quasiment tous les pays de la planète y sont représentés, à l'exception des États-Unis qui n'y ont qu'un statut d'observateur. Et le but de cette conférence est simple, empêcher la dégradation de la biodiversité de se poursuivre.
Mais cela n'a pas été très efficace pour l'instant.
Alors pas trop en effet, les dernières estimations sont assez dramatiques. On estime ainsi que la moitié des vertébrés ont disparu depuis 40 ans. Les amphibiens et les reptiles sont pour une grande majorité d'entre eux en danger critique d'extinction. Et les poissons ne sont pas mieux lotis. Cette année, la portion nord de la grande barrière de corail a connu son pire blanchiment jamais vu de mémoire d'homme, tandis que les zones biologiquement mortes dans les océans se multiplient, notamment près de l'Inde. Nous sommes très clairement en plein dans la 6e extinction de masse et la menace d'un collapsus écologique se fait de plus en plus réelle. Théorisé en 2012 dans la revue Nature, ce phénomène de collapsus est un effondrement brutal et global du nombre d'espèces comme un château de cartes. Et on sait qu'il s'est par exemple déjà produit dans le passé à plus petite échelle à cause de l'homme, notamment sur l'île de Pâques.
Que peut faire cette conférence pour y remédier ?
Ben allons Mathias, tu sais bien que c'est une conférence de l'ONU. Elle ne peut rien faire. Enfin bon, pas directement en tout cas. Il y a 6 ans, elle a pris quand même une résolution comportant 20 objectifs appelés objectifs d'Aichi, ayant pour but de faire en sorte que, je cite, « la diversité biologique soit valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples. » Et l'ensemble de ces 20 objectifs devait être réalisé en théorie, en 2020.
Et avec quel résultat aujourd'hui ?
Eh bien, seulement 4 objectifs sur 20 ont été correctement réalisés. Pour les autres, les progrès sont bien trop lents. Et encore pire, 5 objectifs pour lesquels la situation s'est dégradée depuis 2010. Plusieurs ONG ont compilé l'ensemble des engagements pris par les États. Et le constat est sans appel, puisque 10% d'entre eux font assez d'efforts au niveau national pour atteindre les objectifs d'Aichi. Et 5% seulement vont réussir à les tenir. Paradoxalement, ce sont les pays en développement qui sont les meilleurs élèves pour réussir leurs objectifs. Les pays développés, quant à eux, sont plutôt en queue de peloton.
Donc finalement, cette conférence, elle ne sert à rien.
Alors si, tout n'est pas acheté, loin de là. Déjà au niveau diplomatique, elle a tout de même réussi l'exploit de se faire asseoir 196 pays à la même table, malgré la situation internationale très tendue des derniers mois. Et ensuite, cette édition 2016, elle a déjà produit une résolution avant même de commencer. Surnommée la Déclaration de Cancun, elle vise à intégrer la biodiversité dans la pêche, le tourisme, l'agriculture et l'exploitation forestière, entre autres. La conférence a vu aussi des initiatives parallèles germer. Soutenue par les Pays-Bas, une coalition pour la protection des pollinisateurs a vu le jour. Elle ne fédère pour l'instant que 12 pays européens, dont la France, mais pourrait s'élargir. Et ensuite, le Brésil a annoncé un plan de restauration de 22 millions d'hectares de sols déboisés ou dégradés, même si la surface des pertes augmente d'année en année et que la saignée s'est révélée 29% supérieure à celle de l'année dernière.
Un dossier préoccupant à suivre, donc.
Donc une volonté politique à l'échelle mondiale est requise pour pouvoir lutter efficacement. Nous avons le cadre, maintenant il n'y a plus qu'à.
Merci Nicolas pour ce billet scientifique. Repassons à l'actualité maintenant avec la revue de presse présentée par Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Mathias.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française.
Et on commence cette revue de presse avec...
Alors pour commencer cette revue de presse, je crois que le Figaro a des idées pour fêter l'anniversaire de Transistor.
Tout à fait Mathias, le supplément Le Figaro et vous nous proposait ce matin le guide illustré de l'amateur de champagne à Londres. Une situation qui bien sûr nous concerne tous dans ce studio. Non allez, blague à part, la presse s'intéresse beaucoup à ce qui reste du Parti Socialiste aujourd'hui. On parle de Valls bien sûr et le monde de s'interroger. Manuel Valls peut-il rassembler la gauche ? Pour le premier analyste Finchelstein de la Fondation Jean Jaurès, ça va être compliqué. Il souligne le triple défi à relever pour qui voudra rassembler la gauche, défi psychologique, que tout le monde arrête de croire, je cite, que « sa singularité est irréductible à tout compromis », défi idéologique, renouer avec les questions de fond, et défi politique, réguler toutes ces candidatures qui pullulent de partout. On glisse au passage que, pour la refondation idéologique, la Fondation Jaurès peut aider un bon, voilà, juste comme ça en passant. Pour le second analyste, Marlière, prof de Sciences Po à Londres, ben ça va être encore plus compliqué. Pour lui, il était surtout, je cite, « surréaliste d'entendre Valls s'auto-introniser candidat de la réconciliation » et d'ajouter textuellement qu'Henri Jaune, quand le champion du 49-3 à mémoire courte, affirme qu'on ne gouverne pas à coup de décret. Bref, pour reprendre la caricature en une de Courrier International cette semaine, la gauche cherche leader, de gauche de préférence.
Et en fait, on trouve un contrepoint un peu plus positif dans Le Figaro.
Ouais, exactement, dans un portrait de Valls en Challenger sous la plume de Guillaume Tabar. L'éditorialiste décrit la mue de l'ancien Premier ministre, du dynamiteur des tabous de la gauche, j'aurais peut-être dit principe plutôt que tabou, personnellement. Bref, une mue vitesse grand V parce que la gauche est en position de Challenger en 2017 et parce que Valls lui-même est Challenger dans son parti. L'édito se conclut de manière assez encourageante pour lui. Conjurer le tout sauf Valls, ce sera transformer une faiblesse en défi. Fin de citation.
Et qu'en est-il de la relation Hollande-Valls alors ?
Eh ben, au Canard enchaîné, on insiste plutôt sur l'armistice entre les deux depuis le 5 décembre. C'était dans le numéro sorti hier. Mais tant qu'à faire d'avoir le canard dans les mains, je préfère vous citer l'interview imaginaire de Cazeneuve par Frédéric Pagès. Quand on lui demande « Trouvez-vous la personnalité du président Hollande opaque ?», ce pseudo Cazeneuve répondrait « Ah, ténébreuse. C'est un congrès socialiste à lui tout seul. Son cerveau est plein de coulisses et de sous-commissions. Il doit faire en permanence la synthèse entre ses courants intérieurs. » Ah bah, d'où son incroyable discours d'abdication. Il a fait l'éloge de son bilan pendant 10 minutes pour conclure qu'il renonçait. Ah, il s'est mis en minorité tout seul. Hein.
Et le journal qui consacre tout son numéro hebdomadaire à Hollande, c'est le 1.
Oui, avec comme une « Hollande, merci pour ce moment ». Le numéro est parsemé de petites caricatures toutes mignonnes, genre Hollande en petit Nicolas ou en Calimero. Une chronique a surtout retenu mon attention, celle d'Alain Gérard Slama. L'essayiste s'interroge sur ce décor vide, cette mine défaite, ses regrets sur la déchéance de nationalité. Et il a même des soupçons. Au fond, pour Hollande, assumer son, je cite, « maigre bilan », se faire bouc émissaire et homme seul contre tous. Est-ce que ça ne serait pas un peu retourner la situation au regard de l'histoire, pour reprendre les mots de Slama ? Est-ce que ça n'est pas, je cite, par contraste, mettre en relief l'étendue des services rendus ? Il y a peut-être de quoi se poser la question, effectivement. J'ajoute quand même que l'illustration du 1 est très perturbante cette semaine. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un espèce de Hollande vers de terre.
Oui, enfin, clairement, on dirait plutôt un Hollande spermatozoïde.
Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que ça nous amène tout droit sur la une de Libération ce matin. PMA, GPA, adoption... Allons enfants. Bon, alors, chez Libé, ils étaient très en forme aujourd'hui niveau titre d'article, entre le « infertilité », le coup de semence, et le « pollution, tous, ensemble, voilà, je pense que ça se passe un petit peu de commentaires. Bon, Maëlys vous parlait dans son journal tout à l'heure de la pénalisation des sites de désinformation anti-IVG. Le Monde a justement consacré une intéressante petite enquête au site IVG.net, premier site référencé par Google, un site avec numéro vert et tout le tintouin. Oui, sauf que ce site, qui est mieux référencé que le site gouvernemental tout récent du coup, ce site a été créé par un entrepreneur, René Santis, et mis au nom de sa femme, Marie-Philippe. Avec leur association, le couple a déjà acheté des noms de domaines comme ivg-medicamenteuse.com ou plus original ivg-info.biz. Leur service d'écoute semble assez biaisé et les témoignages qu'ils publient sur l'avortement sont, curieusement, essentiellement négatifs. Quant à leur financement par des dons, ils ne veulent juste pas en parler. En tout cas, l'article conclut sur la nécessité, pour le gouvernement comme pour les associations, de bien mieux gérer leur référencement sur Internet, en plus des problématiques de pénalisation de ce site de désinformation.
Et pour terminer cette revue de presse, une controverse autour d'un photographe.
Ouais, comme ça, ça fera une petite transition avec le journal de la culture à venir juste après. Alors, je voudrais épingler ici un article de Libé. Bon, en gros, on y parle d'Hamilton, photographe anglais, mort le 25 novembre dernier. Il est connu pour ses photos érotisées de filles prépubères, complètement normales dans les années 80 et complètement scandaleuses aujourd'hui. Disons-le franchement, il est connu pour des accusations de viol contre lui et pour sa pédophilie. Jusque-là, je n'ai pas de problème avec l'article, mais vraiment la conclusion, c'est juste pas possible et je pique mon coup de gueule. Dire, comme le fait la journaliste, que, je cite, « la plupart des gamines n'ont besoin de personne pour poster des photos d'elles dans toutes les positions possibles aujourd'hui », eh bien dire ça, c'est faux, ça ne repose sur aucune donnée chiffrée. Oui, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il faut protéger les adolescents sur Internet, mais cela ne doit pas se faire en les culpabilisant, eux, plutôt que leurs prédateurs potentiels. Parce que la violence sexiste et sexuelle, dans ce genre de cas de violence, le coupable, c'est toujours l'agresseur. Voilà pour aujourd'hui, Mathias.
Merci Marie pour cette revue de presse riche et engagée, si je puis dire. Et alors, de l'actualité à la culture, il n'y a qu'un pas. Et nous le franchissons en compagnie de Clémence et d'une autre Marie. Bonjour à vous deux.
Bonjour Mathias. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est-il pas...
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la culture sous la brume. La période est un peu morne. Pas de grands rendez-vous, pas de grands événements culturels, de la pollution, des limitations à 70 km/h sur les autoroutes lyonnaises, la circulation alternée à Paris et à partir de demain à Lyon également, qui vous force à sortir de votre voiture et en faire le tour pour regarder si votre plaque est paire ou impaire. Une brume, enfin, digne de The Mist.
Quoi de plus agréable alors que de rester au chaud à la maison devant une bonne série ? Et oui, vous me voyez venir, aujourd'hui dans le journal de la culture, nous allons parler séries télé, mais pas seulement, puisqu'au programme également du cinéma, l'actualité culturelle lyonnaise, de la littérature et surtout, Clémence, de l'art à la sauce Donald Trump. Et donc on commence avec la série du moment que tu nous présentes.
Alors si vous êtes férus de séries télé et que vous suivez particulièrement les productions HBO, vous savez peut-être que l'épisode final de la première saison de Westworld a été diffusé ce lundi. Cette série, que le nouvel Obs désigne déjà comme l'héritier de Game of Thrones, est célébré comme la nouvelle série phare de la chaîne, en réponse à une baisse du nombre d'abonnés et à la concurrence exacerbée des chaînes AMC, FX et USA Network, qui proposent un contenu de grande qualité, à base de séries que vous connaissez certainement, type The Walking Dead, American Horror Story et Mr. Robot. Alors Westworld s'impose comme une grande première pour HBO sur le terrain de la science-fiction, puisqu'elle situe son action dans un parc d'attractions où les visiteurs peuvent vivre des aventures dans différentes époques, entourés de robots à forme humaine qui découvrent qu'ils ont été créés à notre image et qui se demandent si l'humanité est vraiment ce à quoi ils aspirent pour eux-mêmes, d'autant plus que les humains peuvent leur faire tout ce qu'ils désirent. Alors, entre le western et le film de science-fiction, Westworld propose une composition vraiment réfléchie et appréciable, et je vous conseille vraiment de vous laisser tenter.
Alors, on reste à l'abri du froid et de la pollution, mais on passe maintenant au grand écran, avec un aperçu des propositions 7e art pour les jours à venir. Alors, outre la rétrospective Tom Cruise, pour les amateurs du genre qui se terminera le 30 décembre, l'Institut Lumière nous propose de prolonger un peu le cycle Hollywood et la Cité des Femmes, entamé lors du Festival Lumière autour de la parution du livre d'Antoine Cyr. Alors celui-ci animera deux soirées spéciales, mardi et mercredi prochains, les 13 et 14 décembre. Ce sera l'occasion de découvrir cet ouvrage et de voir ou revoir des chefs-d'œuvre d'Hollywood, comme par exemple la Rebecca d'Hitchcock. Et puis si à l'approche de Noël, vous commencez à vous poser des questions existentielles du type « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à Tante Marthe ?» Eh bien, si par hasard Tante Marthe est cinéphile, vous pouvez sans doute trouver son bonheur, et aussi celui de son porte-monnaie, à la braderie de, votre porte-monnaie, pardon, à la braderie, de l'Institut, qui a lieu ce week-end, donc samedi et dimanche, 10 et 11 décembre, où vous pourrez trouver des affiches, revues, catalogues, à des prix vraiment attractifs. Enfin, il y a plusieurs avant-premières la semaine prochaine, et notamment celle du dernier film très attendu de Jim Jarmusch, Patterson, avec entre autres Adam Driver et surtout Golshifteh Farahani, au Comédia mardi soir à 20h, et je vous conseille de réserver, si ça vous intéresse. Et dans un autre genre, mais tout aussi excitant, vous pourrez découvrir le film Diamond Island, présenté lundi soir par son réalisateur David Chou, qui est le lauréat du prix de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques lors de la dernière semaine de la critique à Cannes. Donc David Chou nous propose un portrait de la jeunesse cambodgienne à travers le personnage de Bora, 18 ans, qui quitte sa campagne et s'engage comme ses amis sur les chantiers de la luxueuse Diamond Island et découvre parallèlement le monde de la nuit avec ses rêves et ses illusions.
Alors pour les rendez-vous dans la région, vous pouvez aussi noter dans vos agendas que le 15 décembre commencera à Lyon et dans toute la France le Festival du court-métrage. L'occasion de découvrir et de célébrer avec plaisir ce genre de format vidéo. Alors projection, tournage en direct, masterclass et rencontres avec des professionnels, de quoi émoustiller les adeptes et les novices du genre, dans le genre. Pour plus d'informations, je vous conseille de vous rendre sur le site officiel, lafetteducourt.com, où vous pourrez notamment trouver les programmations et lieux de projection. Et si vous passez votre mois de décembre à Lyon, sachez qu'il y aura des projections dans tous les arrondissements, alors vous n'avez aucune excuse. Autre rendez-vous encore plus proche de nous, puisque ce vendredi aura lieu le coup d'envoi de l'édition 2016 de la Fête des Lumières à Lyon. Cette année, la commune vous propose entre autres de voir une île végétale Place Pradel, une fontaine des Jacobins qui sera multicolore pour l'occasion et un voyage imaginaire au centre de la Terre, Place des Terreaux. Au total, ce sont 41 animations que vous pourrez apprécier dans les rues lyonnaises. Alors je vous conseille de vous équiper de gros manteaux et de thermos remplis de boissons bien chaudes parce que les nuits seront froides, mais elles seront également très longues. Et surtout, surtout, sur conseil de Rémi Cerda, je le dis, ne manquez pas la bétonnière boule à facettes de la rue Président Carnot dans le 2e arrondissement.
Oui, et dans le cadre de la Fête des Lumières, ce week-end, vous pourrez aussi profiter de la prestation de l'Orchestre Symphonique des Grandes Écoles de Lyon, avec deux concerts samedi soir à 21h puis à 22h15 en l'église de Sainte-Bonaventure, autour d'un programme de saison avec le thème Scandinavia. Alors vous pourrez entendre la suite de Sigurd Jorsalfar, d'Edvard Grieg, Echoes of Ocean de Niels Gade et le poème symphonique Philanandia de Jean Sibelius. Donc l'entrée sera libre et gratuite et pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre samedi, il y a une séance de rattrapage lundi soir 12 décembre pour le traditionnel concert de Noël de l'ENS dans l'Amphimérieux, sur le site Mono donc. Vous pouvez acheter vos places pendant les permanences de l'orchestre ou directement lundi soir au moment du concert. Du côté des parutions, je vous parle d'un très beau livre que vous pouvez ajouter à votre wish list, hein, pourquoi pas celle de Tante Marthe d'ailleurs pour ceux qui suivent, puisqu'il s'agit de l'album Lointain Souvenir, dans lequel la photographe Flore s'est rendue sur les traces de la jeunesse indochinoise de Marguerite Duras, dont on célèbre les 20 ans de la disparition. Alors loin d'être de simples illustrations, les photos s'engagent dans un véritable dialogue avec les mots de Duras et retracent le voyage au long cours de la photographe, de Saïgon à Sadek, nourri par une connaissance très intime des textes. L'ouvrage nous plonge dans un univers d'épure et de contemplation qui amène Laure Adler dans la préface à le qualifier de présence-absence. Donc c'est un très bel album à découvrir et les photos sont par ailleurs visibles en ce moment à Paris à la galerie Sit Down.
Alors, vous le savez très certainement, on regrette depuis dimanche la disparition à 82 ans de Gottlieb. Dessin dépouillé, adepte du dérisoire, de l'absurde et de l'humour noir, c'était l'auteur de Guéluron, le co-auteur des Dingo Dossiers, de la rubrique Abrac et de Super Dupont. Il est par ailleurs à l'origine de la création de deux mensuels incontournables pour les BD-files, L'écho des savanes et surtout Fluide glacial. Et si vous avez vu se multiplier les hommages à Gottlieb sur Twitter en ce début de semaine, vous avez certainement remarqué cette petite coccinelle qui habitait bon nombre de postes. Eh bien sachez, si d'aventure vous vous êtes demandé pourquoi cette coccinelle, que c'est un personnage clé de l'œuvre de Gottlieb. À l'origine, on le sait rarement, élément de décor pour combler ou parasitée, selon certains, des cases parfois un peu vides, elle est rapidement devenue un personnage à part entière, doté de paroles, sorte d'analyste critique de l'action.
Et pour finir, Clémence, c'est un peu de culture insolite, avec l'art à l'épreuve de la politique, c'est ça ?
Oui, épreuve, c'est le cas de le dire. Ok. Bon, on le fait très rapidement. On ne le fait pas. Ok. Est-ce qu'elle a un beau corps ? Non. Est-ce qu'elle a un gros cul ? Absolument. Qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est dû au hasard Donald Trump ?
Eh oui, Marie, c'est effectivement à ce cher Donald qui parlait de Kim Kardashian. Et on lui doit cette perle de classe et de raffinement. C'est cette même perle qui le propulse tout droit dans l'histoire de l'art, puisque l'artiste américain Jonathan Horowitz a choisi de faire de cette citation le titre d'un de ses collages représentant Trump de dos, en train de jouer au golf, face à un ciel orangé, apocalyptique. On est clairement dans le cadre de l'art engagé, qui nous amène à remettre en question...
À nous interroger, c'est une œuvre qui nous a fait rire.
Oui. Bon, c'est une œuvre qui nous a beaucoup fait rire, effectivement. Et clairement, si Horowitz a voulu lancer le débat, il ne s'est pas trompé de sujet. Voilà, on finira pour m'excuser sur cette vanne pourrie de rien.
Eh bien, nous prenons cette vanne... comme elle vient, et merci à vous deux pour ce journal de la culture très complet. Bon, il est temps de passer à la partie la moins sérieuse du en ce moment, et nous quittons l'actualité pour reprendre un peu de chaleur avec tout d'abord la météo présentée par Baptiste.
Eh oui, bonjour Mathias, bonjour mes chatons. J'espère que vous avez tous passé un bon début d'année. Oui, je sais, on est en décembre, mais je tiens à vous les loulous. Est-ce que vous avez bien mangé ? Est-ce que vous avez fait des nouveaux amis ? J'espère. Mais la question la plus essentielle, c'est est-ce que vous avez atteint votre capital soleil et chaleur ? En vrai, moi j'oublie qu'on est à Lyon et qu'il fait froid assez rapidement. Je m'en suis rendu compte au moment où ma main avec laquelle j'écrivais mes SMS commençait à devenir bleue tandis que l'autre, bien caché dans ma poche, se portait à merveille. J'ai essayé de fuir ce climat continental et dans quelques mois, je pars en Écosse pour faire la bise à mon ami Nessie. Du coup, j'ai regardé la météo et j'ai trouvé un magnifique site qui me disait « Il est fréquent en Écosse d'avoir la pluie et le soleil dans la même journée. C'est pourquoi il faut toujours prévoir le parapluie même quand il fait beau. » Jusque-là, ça va. Mais ensuite, il me dit « La force du vent vous fera regretter d'avoir un parapluie. » Alors il est conseillé d'utiliser plutôt un manteau à capuche. Du coup, comme tient mon style et que la capuche c'est has-been depuis au moins un bon millénaire, j'ai préféré investir dans un abri nucléaire portatif anti-pluie, anti-vent et anti-Brexit. Si quelqu'un en a un, je lui échange contre ma crème solaire Indice 50+, Special Kids. Bref, là je suis sûr que vous dites « Ouais bon, la météo c'est la chronique planquée, ça sert à rien, en plus il raconte sa vie ». Grossière erreur. Par exemple, saviez-vous que la pluie influence fortement le taux d'absentéisme à une élection ? Ou encore qu'en 1879, une éclipse a mis fin à une guerre en Afrique du Sud. Alors si vous avez prévu de combattre les Zoulous, je vous conseille d'attendre la prochaine éclipse qui aura lieu le 26 février. Concernant la météo à Lyon, il va faire froid. Bisous.
Merci Baptiste pour cette météo éclair, j'ai envie de dire. Et après le temps qu'il fait, voici le moment du calendrier, des prénoms, des saints, bref, de l'éphéméride présentée par Nicolas. De l'éphéméride présentée par Nicolas,
merci, Mathieu,
qui fait son grand retour dans en ce moment.
Alors je suis très content de vous retrouver toutes et tous pour cette éphéméride du 8 décembre. Alors comme à mon habitude, j'avais prévu de vous proposer quelque chose de tout à fait sérieux. Voilà, donc j'avais prévu quelque chose de sérieux et puis ensuite on m'a infligé ce jingle. Alors je me suis dit parfait, 8 décembre on va parler de la fête de l'Immaculée Conception, de la fête des Lumières, de Marie, je ne parle ni de notre ancienne présidente adorée mais déjà décatie, ni de notre nouvelle régisseuse très compétente mais encore naïve. Alors j'espère que toi président Mathias mais aussi spécialiste de l'être moderne, tu apprécies l'équilibre de la phrase précédente. Donc, comme je le disais, j'étais parti sur Marie, mais ensuite je naviguais sur la toile, comme on dit, et ce fut une avalanche de prénoms, tous plus risibles les uns que les autres. Par exemple, sachez qu'aujourd'hui on fête pêle-mêle Budog, Eucher, Eutrope ou encore Macaire. Alors, je ne sais pas vous, mais ça m'évoque une mauvaise blague de Monsieur Madame. Par exemple, Monsieur Madame, mais ça a été un flop, ont un fils. Macaire, Macaire, mais ça a été un flop. Ou encore, Monsieur et Madame, y est ce jeu vidéo, ont un fils. Eutrope, Eutropio ce jeu vidéo. Alors, vous voyez le problème. Comment faire quelque chose de sérieux quand les seuls prénoms au calendrier sont tellement risibles que j'ai à peine à me forcer pour inventer des Monsieur, Madame dessus. Enfin bref, revenons à nos moutons. Puisque c'est la fête de l'Immaculée Conception dans notre beau calendrier laïque, on fête les jeunes filles appelées Conception par leurs parents, parents contraints et forcés, par leur promesse d'appeler leurs enfants Conception et Bienvenue lors d'une soirée alcoolisée durant leurs études, promesse enregistrée et religieusement conservée par pas moins de 57 témoins goguenards. Et vous l'aurez remarqué, le mot goguenard comprend 2G, exactement comme grog, gang et gong. Mais il y a pire. On fête aussi les dérivés du prénom Conception, en particulier à l'étranger, dans ce beau pays d'Espagne qui à la fois nous borde au sud et nous déborde en matière de prénoms ridicules. Le beau prénom espagnol Concepción possède malheureusement un certain nombre de variantes. Le plus connu désormais, c'est bien sûr Conchita. Donc rappelez-vous qu'avant qu'on lui adjoigne un nom de famille qui signifie charcuterie, c'est déjà la déformation hideuse d'un prénom ridicule qui veut dire Conception. Mais tant pis, hein, bonne fête Conchita, et aussi bonne fête à tous les Eucher et autres Budog qui nous écoutent. J'en profite pour faire une dédicace à Aurore en matière de prénom espagnol ridicule. Alors, à part ça, je suis désolée, il y avait des naissances et des décès intéressants comme Philippe Catherine ou John Lennon respectivement, mais ils se sont tous et toutes fait éclipser par Tadeusz Kantor, mort brusquement le 8 décembre 1990 après une séance de répétition. Alors merci d'être mort sur scène et de nous avoir fourni une belle salle pour notre journée de la radio. Tadeusz, t'es un frère.
Merci Nicolas pour cette éphéméride. Toujours à propos du calendrier, mais planétaire cette fois, passons à l'horoscope que tout le monde attend avec Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Dans mon horoscope, il y a des chômeurs. Dans mon horoscope, il y a des moches. Des très moches.
Les étoiles ont parlé, ça y est, 2016 est en phase finale. Mais que nous réserve ce dernier mois de cette année rocambolesque ? Alors pour les béliers, attention. Voilà, c'est tout, attention. Au moindre faux pas, vous risquez de finir avec des cornes. Toutefois, grâce à votre ascendant saturnien, votre signe vous ouvre bien des portes. Un bon trébuchet et tous vos problèmes seront réglés. Les taureaux maintenant. À défaut de vous faire prendre par les cornes, ne foncez pas tête baissée dans l'arène des sentiments. Ou vous finirez empalé, mais pas comme vous l'espérez. Gémeaux, vous allez enfin trouver chaussures à votre pied dans la semaine à venir. Pour les célibataires, ne désespérez plus. Pour ceux en couple, pas de bol, vous auriez dû attendre un peu avant de prendre votre pied. Pour le travail, de bonnes perspectives d'investissement dans le prêt-à-chausser. Cancer, arrêtez de marcher en crabe, allez de l'avant, la récompense n'en sera que plus belle. Je peux vous assurer que le beau gosse là-bas que vous matez du coin de l'œil en cafette ou au foyer ou aux rues en pince pour vous. Pour les lions, de belles perspectives dans votre futur, mais rien de très sûr. Étrange, vous me direz, pour un horoscope. Eh bien, pour la peine, si. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez mourir. Bim, l'horoscope ne se trompe jamais. Bonjour les verges. Une semaine pleine d'argot pour vous grâce à votre ascendant Simonin. Je ne pense pas que vous bidiez grand-chose à votre futur étoilé sous les auspices d'Oméga 29. N'ayez pas la tronche à caler les roues d'un corbillard. Sortez-vous le macaron à toute brinque de votre bonda. Je vous le bonis sans embâge. Votre petit oiseau chantera pas forcément tous les matins et... Et quoi ? Ah, pardon, j'avais mal compris, oh là là. Ouh, quel mésir. Je reprends du coup. Bonjour à tous les vierges. Bah, du coup, je pense pas que vous bitiez grand-chose. Balance maintenant. Difficile de faire un choix en matière de sentiments, vous ne faites pas le poids face à tous vos rivaux sentimentaux. Au travail, rappelez-vous que personne n'aime un délateur. Apprenez à lâcher prise, sauf si vous écoutez cette émission en faisant de l'escalade. Ce mois-ci, les scorpions ont du piquant. un amour à 5 étoiles, ou l'amour dans un 5 étoiles, c'est selon, et des perspectives de carrière réjouissantes. Niveau santé, vous êtes à 4 étoiles, sauf pour les scorpions malades. Par contre, même si vous vous entendez très bien avec les gémeaux ou les capricornes, essayez d'éviter de partager vos muqueuses pour le moment. Bonjour à vous les sagittaires. Vous allez recevoir des cadeaux bientôt, dans un futur proche. Voilà, les étoiles sont radieuses et éclairent cette fin d'année froide et sombre. Elles n'étaient pas très inspirées pour vous, hein. Quelle idée aussi d'avoir un nom qui ressemble à un mélange entre un jeu de cartes et un book. Capricorne, tout va bien pour vous en amour. Les amoureux resteront amoureux et les célibataires resteront célibataires. Faites attention aux muqueuses des scorpions toutefois. Pour le travail, va falloir vous y mettre parce que sinon Uranus ne sera pas toujours là pour vous sauver les miches. Verseau à présent, objectivement, le signe de la classe, de l'intelligence et du charme sans vergogne.
Tu es Verseau, c'est ça ?
Oui, bien sûr. En ce qui concerne l'amour, attendez-vous à trouver votre recto lors d'une soirée pliante à 4 ou à 2, si vous rêvez en grand. À tous les crayons, malgré votre prénom pourri, vous aurez bonne mine dans les jours à venir.
Oh mon Dieu !
Et enfin, poisson pour finir, bloup bloup à vous. Après avoir tourné en rond dans votre bocal pendant toute la... Ah, on m'annonce à l'oreillette cosmique que les blagues sur les espèces marines coulent à pic et aussi que c'est tout pour moi.
Merci Pierre pour ces fins jeux de mots dans l'horoscope. Sinon, enfin...
T'es satisfait de ton horoscope, Mathias, ou pas ?
Bah moi, je viens d'apprendre que je resterai célibataire toute ma vie, donc tout va bien.
Mais moi, j'ai appris que j'allais avoir...
C'est peut-être pas mal.
Et toi, Rémi ? On en parle de ton horoscope ?
Je suis Capricorne et je... Ben non, en fait, c'est peut-être mieux si on en parle.
On en parle pas.
Et Uranus va bien ?
Uranus va très très bien, oui, bien sûr.
Et toi, Baptiste ?
Moi, je vais aller dans une arène prochaine.
Aïe.
Bon, c'est... Il sera maintenant... plus question d'animaux magiques ou cosmiques censés régir nos vies et nos affects. Et à la place, on a un autre animal, animal humoristique selon Aristote le Grand. J'ai nommé Rémi et son billet
c'est
d'humour.
Moi.
Bonjour Rémi.
Bonjour Mathias.
Trois minutes d'humour, de subtilité et de blague avec du caca.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Alors, Mathias et chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai enfin commencé ma passation au sein d'Anvers. Et que, donc, du coup, je ne suis plus en charge de la map, c'est officiel. Du coup, je peux vraiment me faire plaisir.
Ça va enfin fonctionner.
C'est ça, voilà. Et ouais, fini les allers-retours à Mâcon. Et puis surtout, je me fais plaisir et je peux parler de viande. Et à propos de viande, on va partir en Syrie. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, Alep est sur le point de tomber, c'est la joie, ça va enfin être fini cette histoire, cette espèce de saloperie avec plein de gens qui se tapent sur la gueule et qui nous envoient des migrants pour nous faire péter nos cancers. Alep, je vous situe, c'est cette ville mondialement connue pour son célèbre savon, qui devient aussi du coup la capitale mondiale du massacre. Alors, deux titres qui n'avaient été cumulés que par Auschwitz-Birkenau. C'est quand même très très fort, mais à ce stade de ma chronique, je sens qu'il vaudrait peut-être mieux que j'évite de poursuivre le parallèle entre notre futur président et les heures glorieuses de l'histoire de la France que j'avais dressées la semaine dernière. Parce que, bon, ouais, non, en même temps, président pote avec Bachar el-Assad, c'est marrant quand même, non ? Enfin, recevoir des migrants, c'est déjà dur, recevoir des migrants morts en cadeau d'une visite présidentielle. Enfin, après le bonnet de fourrure du Kazakhstan que François Hollande avait récupéré, on va avoir François Fillon avec un bras arraché autour du cou, ou l'intestin d'un papy avec le caca qui coule de chaque côté sur les chaussures pour faire cirage, et puis on pourra faire frotter ça par un survivant qui aurait encore des mains ou une langue. Enfin bon, voilà. Mais comme on dit, hein, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et on fait pas de carnage sans tuer des gens. C'est aussi simple que ça. Alors la Syrie actuellement est un amoncellement de coquilles vides, il y a tous ces œufs cassés qui dégoulinent sur la terre entière. C'est dégueulasse, et depuis la station spatiale internationale, on voit plus qu'une boule dégoulinante et blanchâtre, on dirait l'intérieur d'une petite syrienne après le passage de l'armée. Quoi. C'est terrible, et ça me fait penser que si c'est pas du blanc d'œuf, c'est peut-être quelques traces du contentement des marchands d'armes.
Depuis quand on laisse Rémi parler dans ce moment ?
Et alors là,
moi, je me
c'est
pose
là
la
que
question.
Vient la petite surprise, parce que les marchands d'armes, eh ben en fait, c'est nous. Ouais, alors, les infos sont tombées il y a quelques jours, alors sur toute la durée du mandat de François Hollande, je vous fais le tableau vite fait. Le déficit public augmente, les chiffres de l'extrême droite augmentent, la popularité du président baisse, les membres du PS sont réduits de moitié, mais par contre, on a 15,3% d'augmentation des ventes d'armes. C'est fantastique et ça, c'est vraiment la classe. Alors, je propose qu'on mette ça discipline olympique pour un petit peu rehausser le niveau de la France. Je sais pas si vous imaginez le truc, là, les mecs, paf, un Syrien. Ah, t'as vu le gosse, là, bim, dans l'oreille. Oh la vache, elle est trop bonne. Et ça lui dit, on fait des trous à la place des tétons. Et boum, 1-0 pour la France. Oh, ce passement de jambes. Tiens, le sport, c'est beau quand on y met ses tripes. Ou celle des autres. À propos de sport, Cécile Duflo, à peine remise de sa médaille en chocolat à la compétition de qui sait qui va récupérer tous les voix PS au premier tour pour se coucher sous Manuel Valls au second, est en Turquie actuellement. Et je me demande si c'est pas pour poser des éoliennes à la frontière syrienne pour récolter peut-être les derniers râles des quelques survivants. Enfin bon, voilà.
Sans commentaire.
Tiens, tu oublies ton merci Rémi cette fois-ci, Mathias, comme c'était étonnant.
Oui, merci Rémi.
De rien, Mathias.
Alors, c'est sur là-dessus que nous terminerons en ce moment. Une heure d'actualité plus ou moins sérieuse qui, j'espère, vous ont appris des choses, fait réfléchir ou au moins diverti, si ce n'est faire pleurer. Il est maintenant temps de refermer ce en ce moment avec émotion, car je l'avoue, c'est la première fois que je présente cette belle émission et que je modère un direct de Transistor.
Et bien, c'est une réussite pour une première fois, Mathias.
Merci. Je ne vous quitte pas cependant, car le direct continue. Littérature, histoire, cinéma, jeux, biologie et fiction sont au programme des 2 heures à venir. On se retrouve dans 2 heures pour la conclusion du direct, mais en attendant, restez sur Transistor, on a tout prévu. Et il est déjà 15h01, et c'est le Flash Info de Maëlys. Rebonjour Maëlys.
Rebonjour Mathias. Tout de suite, flash info avec un rappel des titres d'actualité de ce jeudi 8 décembre 2016. Donc, actualité internationale d'abord, de nouvelles révélations issues des archives d'Edward Snowden concernant les activités officieuses de la NSA et de l'agence du renseignement britannique, la GCHQ. On apprenait hier notamment par le journal Le Monde que la France avait été ciblée par un programme d'interception des communications mobiles à bord des avions sur les vols de la compagnie Air France et que Britanniques et Américains auraient espionné leurs alliés de la diplomatie israélienne et des services du renseignement. Nouvelle révélation du Monde cet après-midi, Britanniques et Américains auraient étroitement écouté les communications des organisations internationales en Afrique mais également les relations entre la France et les pays d'Afrique francophone. Plusieurs ambassades françaises ou encore Médecins du Monde auraient ainsi été visées par la surveillance des agences britanniques et américaines. Moyen-Orient et guerre en Syrie maintenant, où l'armée syrienne dirigée par Bachar el-Assad a annoncé hier avoir repris entièrement la ville d'Alep au terme de bombardements meurtriers. Malgré de nombreux appels à la trêve de la part des factions rebelles et comme de la communauté internationale, Bachar el-Assad, appuyé par la Russie et la Chine, refuse pour l'instant toute idée de cesser le feu. Retour en France maintenant, dans le domaine de la santé, les sénateurs ont adopté hier soir la proposition de loi socialiste visant à pénaliser les sites anti-IVG pour désinformation. Une première victoire pour les avocats du texte, mais la bataille n'est cependant pas encore gagnée et le prochain épisode aura lieu avec le prochain retour du texte à l'Assemblée nationale. Un ancien ministre aux prises avec la justice, nouvel épisode dans l'affaire Cahuzac, plus de 4 ans après la révélation concernant les comptes cachés dans des paradis fiscaux de Jérôme Cahuzac, ministre du budget d'alors. L'ancien ministre du budget a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment. Il fait appel de la décision. Pour finir, la France plongée dans un brouillard de particules fines, le pire pic de pollution hivernale depuis 10 ans. Circulation alternée en plus des transports en commun gratuits en Île-de-France et pour la première fois dans la région Rhône-Alpes. En effet, à Lyon et à Villeurbanne, le préfet de région a décidé pour la première fois d'appliquer la circulation alternée à partir de demain vendredi. Si vous êtes enceinte, si vous avez de jeunes enfants, si vous avez plus de 65 ans, si vous souffrez de pathologies cardiaques ou respiratoires, veillez à limiter les activités physiques et sportives intenses, limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe. À dans une heure pour un nouveau Flash Info avec Mathias. Et en attendant, bon après-midi sur Transistor.
Merci beaucoup Maëlys. Et tout de suite, c'est l'heure des yeux ont des oreilles avec pour thème l'anniversaire.